Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick.
Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose.
Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler.
Salut les amis et bienvenue au récit francophone. Ici, c'est Patrick. Cet été, Jim et un groupe de professeurs de West Virginia University ont emmené certains de leurs étudiants à Washington, D.C. pour un programme d'études. Parmi les professeurs, il y avait le docteur Freho Hailu, qui enseigne l'économie. Professeur Hailu est d'origine éthiopienne et il parle français. Profitant de l'occasion, Jim demande au prof Hailu de nous expliquer comment est-ce qu'il a appris le français. Vous conviendrez avec moi que le professeur Hailu est un cas curieux. Il vient de l'Éthiopie, un pays qui n'est ni francophone ni anglophone, mais le voilà, professeur d'économie à West Virginia University, où il enseigne en anglais. Et il échange avec Jim en français. Eh bien, moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'il est arrivé à ce point. La conversation entre Jim et le professeur Hailu est riche. On y découvre tant de choses. Par exemple, les alliances françaises existent en Éthiopie depuis 1907 et le chemin de fer franco-éthiopien reliant les Djibouti et l'Éthiopie au fil des temps a contribué au maintien des relations entre la France et l'Éthiopie. Mais également, étant donné que la conversation se passe à Washington, D.C., où il y a un tas de restaurants éthiopiens, Jim et les professeurs Hailu nous parlent un peu de la cuisine éthiopienne à Washington, D.C. Alors, suivez cette excellente conversation. Bonne écoute.
Hey, bonjour tout le monde. Je suis ici à Washington, D.C. avec un collègue, Freho Hailu. C'est un professeur d'économie à West Virginia State University. Il est d'origine éthiopienne. On est ici devant l'ambassade du Canada et on a décidé pour l'inspiration de parler français. Mon ami ici, Freho, il est éthiopien. Il ne vient pas d'un pays francophone, dit Éthiopie, mais il parle français. Et bonjour, Freho.
Bonjour, Jim. Comment ça va?
Ouais, ça va. C'est bien d'être ici devant l'ambassade, n'est-ce pas?
Oui, absolument.
Tu as mentionné l'architecture. C'est impressionnant, n'est-ce pas?
Très impressionnant, comme tu le vois là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit d'une architecture très, très... attirante, comme tu vois.
Ouais, c'est très moderne aussi, n'est-ce pas? Oui. Et ça montre aussi l'importance des États-Unis au niveau de ses relations à ambassadorial, une chose aux États-Unis pour le Canada.
Oui, bien sûr que les relations, surtout culturelles et économiques entre le Canada et les États-Unis, sont d'une très vaste, comme on dit. Peut-être que le Canada, c'est le premier pays au niveau commercial en termes de volume de commerce avec les États-Unis.
Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et le Mexique, c'est le deuxième, je crois.
Voilà. Ouais. Donc, au niveau culturel, ce sont deux pays qui sont très proches. Et puis, au niveau économique et culturel, et tout ça, ce sont des pays...
Ouais. Et Freho, ce qui est bien, c'est qu'on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. On est de bons collègues. On a eu l'occasion de voyager avec un groupe ici. On était au Canada dernièrement et maintenant on est ici à Washington, D.C. pour faire comme un petit truc sur ce qui est pour trouver même les aspects internationaux ici dans la ville. Et toi, tu parles bien français et. Et donc, on parle un petit peu, puisque tu viens d'un pays où ce n'est pas le français qui est la langue de l'éducation, Et comment, avec tes parents, toi, depuis quand tu commences à apprendre le français?
Voilà, moi je viens d'un pays qui n'est ni francophone ni anglophone. Mais là où je suis né, dans la ville de Diredawa, c'est là où je suis né. Il y avait un centre culturel français, l'Alliance française, qui était aussi une école primaire, voilà. Mes sept frères et sœurs étaient dans une école anglophone, disons, où on apprenait l'anglais. Et moi, je suis le seul parce que c'était une école privée.
Mais pourquoi le français et comment
Pour moi, pour ma famille, c'était un choix économique parce que c'était une école privée. Le français, c'est... Bon, mon père ou mes parents voulaient que j'apprenne une langue étrangère. Bon, le français était leur choix, donc voilà.
Mais je crois que l'instruction était bonne aussi, n'est-ce pas?
L'instruction était très, très bonne. On avait des... c'était des Français qui enseignaient beaucoup, et du jardin d'enfants jusqu'au CM2, Grade 6, comme on dit ici en anglais. Et après ça, il y avait une école canadienne qui était gérée par des catholiques du Canada qu'on appelait l'école Notre-Dame. Voilà. Uh-huh. Voilà, c'était une école que j'ai fréquentée jusqu'au Grade 10, jusqu'au troisième, on dit, dans le système français. Voilà.
Mais tu sais que il y a le chemin de fer, c'est bien connu en Éthiopie, ouais. Et entre les petits documentaires et choses. Uh-huh. Et je sais pas, je sais que tu n'es pas spécialiste ça, mais est-ce que tu connaissais cette histoire des chemins de fer qui reliait Addis à Djibouti?
Oui, je t'ai parlé à cette le chemin de fer franco-éthiopien, comme on l'appelait à l'époque, était fondé au début du XXe siècle, en 1907. 1906 ou 7, je suis pas sûr, mais je suis sûr que notre école, l'école d'Alliance française de Diredawa, a été fondée en 1907. Donc c'était la gare, la compagnie ferroviaire éthiopienne, voilà, et l'école, c'était géré par des Français. C'est comme ça que, comment on appelle les gens qui viennent partager leurs connaissances de gestion ou des gens, des enseignants qui venaient enseigner. Voilà, on avait ces groupes de gens-là qui habitaient dans la communauté même, à Diredawa, voilà.
Oui, et comme tu dis que tu viens de pays ni anglophone ni francophone, oui. Bien sûr, l'anglais est plus populaire au niveau d'éducation que le français, oui. mais quand même, l'Alliance française, le lycée français et le chemin de fer, on voit une certaine connexion ou bien une certaine amitié avec le monde francophone, mm-hmm. En Éthiopie. Et donc, toi, tu as fait un petit tour du monde, en fait, avant d'arriver en Virginie occidentale. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que tu as habité à Montréal pendant un assez bon moment. Mais à Toronto, est-ce que tu peux parler un petit peu de Toronto où tu as fait tes études à York University et il y a le campus... Glendale, s'appelle Glendale, je crois. Tu peux décrire un petit peu la situation à l'époque là.
Voilà, quand je suis arrivé au Canada, c'était la première fois, c'était à Montréal. J'ai vécu dans cette ville là pour presque 18 mois, presque 2 ans même. Et ma connaissance et mon usage du français a continué à Montréal, Canada. C'était une expérience très enrichissante. Hein? Le fait que j'étais là. Et puis, après 2 ans à Montréal, presque, je suis parti pour de Toronto, la ville de Toronto. J'ai assisté à l'université York, là-bas.
Oui, parle un peu de tes études là, parce que quand on pense à Toronto, on ne pense surtout, il y a longtemps, on pense pas certainement de l'occasion de recevoir une éducation francophone, ou bien à l'époque, de choisir les cours en anglais ou en français.
Oui, là où l'université que j'ai fréquentée, c'était une université qui avait une dimension aussi francophone, où les gens peuvent continuer de recevoir leur éducation, prendre des cours en français ou en bilingue. Je ne suis pas sûr, ça fait un peu longtemps que j'ai quitté la ville de Toronto. Mais il y avait cette dimension-là, francophone, qui s'étendait même dans l'aspect dans l'éducation universitaire, quoi. Oui, j'ai suivi beaucoup de cours en français, même si j'étais dans le système anglophone, là, ça m'a aidé à participer, à maintenir ma connaissance du français en prenant des cours en français. Là. C'est très, très intéressant.
Mais est-ce que tu dirais, si on retourne à cette époque-là, quand tu étais à Toronto, est-ce que tu dirais, franchement, si ton anglais était plus fort que le français à cette époque-là, ou le français, ou même
mon
peut-être
français, oui, ça c'est très intéressant. Mon français était beaucoup plus profond, beaucoup plus... mon usage était là, mais... mon anglais n'était pas à ce niveau à cette époque, mais quand même, j'ai pu maintenir ma connaissance du langue, ou de la langue, ma connaissance de la langue, ma capacité de penser même dans ces deux dimensions-là. Mais voilà, ça, c'était une bonne expérience d'avoir ce choix-là. Voilà, et beaucoup de gens n'ont pas ce choix-là. Donc, j'ai quand même utilisé le français pour... élargir mon horizon.
Qui peut disputer contre ça? C'est le meilleur des deux mondes, quoi.
Voilà, l'apprentissage des langues, voilà, ça répand, ça te donne une dimension que tu n'avais pas, que beaucoup de gens n'ont pas. C'est-à-dire que tu as cette cultural dexterity.
Donc, mais toi, dans ton cas, tu parles plus que l'anglais français aussi. Et donc, tu parles amharique, la langue éthiopienne.
Voilà,
et aussi, tu parles assez bien l'espagnol. Tu es toujours en train d'apprendre l'espagnol.
dans mon cas, ça, les langues et les cultures m'intéressent beaucoup. Là où je suis né, les gens parlent amharic, oromo, somali, tout ça. Je parle toutes ces langues-là.
Oui, mais c'est vient d'une tradition où les langues sont... C'est la force, quoi, aussi. Mais, et donc, comme j'ai dit au départ, là, quand on est à Washington, D.C., et c'est aussi une ville spéciale pour toi... parce que tu avais fait tes études, après avoir quitté le Canada, tu t'es trouvé ici à Washington.
Voilà. Quand tu as une dimension linguistique comme je l'ai ici, ça te donne beaucoup plus de chances, d'opportunités au niveau professionnel. C'est ce qui s'est passé avec moi là. Quand je suis arrivé à Washington, j'ai démontré que je pouvais parler le français, même si j'étais dans un système anglophone. Bon, ça m'a aidé à poursuivre des cours de français, même ici à l'université Howard. Et puis j'ai pu même enseigner quelques cours au niveau élémentaire du français à l'université. Donc ça m'a donné beaucoup de chance au niveau professionnel et voilà.
Mais tu sais que ce qui était bien aujourd'hui, c'est qu'on est ici avec des étudiants et quelques professeurs, un groupe de 12 personnes pour 4-5 jours. Et parmi nos activités pour découvrir des différents aspects du monde global. Par exemple, on a eu l'occasion d'aller au département d'État.
Et
c'était formidable. Des gens qui font le service international, qui se sont adressés à nous. Et puis, on était à un resto vietnamien. On a eu des espaces là pour commander les choses. Mais aujourd'hui, c'était très spécial parce que on est allé dans un resto éthiopien. Ils ont préparé un dîner pour nous. Et on a mangé du style de buffet où on avait des choix de toutes sortes de plats. Toi, je t'ai vu dans ton élément aujourd'hui comme très fier de ta couture et choses, n'est-ce pas?
Oui, voilà. J'ai essayé de... j'ai vu cette opportunité de... d'initier mes collègues, vous, les enseignants et puis les étudiants, à tester quoi, la richesse culinaire éthiopienne.
Est peut-être parmi tous les pays africains. Et on peut toujours disputer ça, mais si on dit choisis un plat ou bien une cuisine africaine, je dirais qu'il y a peut-être plus de gens qui reconnaissent la nourriture éthiopienne que n'importe quel autre pays. Marocain ou peut-être.
Dans ce que j'ai pu voir dans plusieurs grands pays des États-Unis, il y a toujours plusieurs restaurants éthiopiens. Mais je suis sûr que il y a aussi cette richesse africaine au niveau culinaire là. Mais aujourd'hui, j'étais un peu chanceux de vous initier, vous, les enseignants et les étudiants. On est allé au restaurant Curran. À Adams Morgan. Voilà, et j'étais très fier de notre culture. De notre culture et de notre nourriture, et j'ai pu expliquer quelques aspects,
Mais moi, je dirais que, par exemple, si on dit qu'on va à Miami, on va dire qu'on va manger de la nourriture cubaine ou caribéenne. Si on va à San Francisco, asiatique, etc. Mais quand on va à Washington, je dirais peut-être le plus souvent, il faut qu'on mange de l'éthiopienne.
Ici, c'est une ville où il y a... je ne suis pas sûr, mais peut-être 200 000 Éthiopiens, donc c'est pas quelque chose de surprenant si tu vois plusieurs, je dirais même une dizaine de restaurants dans cette ville. Et on est juste un peu au nord de Arlington, du centre-ville même, de Washington DC, donc à la périphérie de Maryland. Donc, voilà.
Mais est-ce que tu dirais aussi que sur ce sujet-là, un petit peu, comme depuis des années, les Éthiopiens ont une présence ici, est-ce que tu dirais que c'est toujours fort et qu'on essaie de vraiment garder la culture ici dans le district fédéral?
Oui. Si on parle de la présence éthiopienne ici, à Washington DC, je dirais que ça date des années 1930, où les premiers étudiants éthiopiens commençaient à venir ici à faire des études. Et ça a continué.
Tu dirais que même actuellement, c'est aussi fort qu'il y a toujours
Les gens. Je dirais même beaucoup plus fort au niveau culturel. La présence culturelle éthiopienne ici à Washington est très prévalente. Tous les gens savent de notre présence ici, de la présence, disons, éthiopienne, à travers notre musique, à travers notre nourriture. Culinaire, quoi. On est là, on devient de plus en plus nombreux quand tu es nombreux, ta culture, il y a cet aspect de la culture qui vient qui est toujours présent dans l'esprit des gens ici.
Bon, enfin, Frou, bon, je veux juste exprimer que c'est bien d'avoir un collègue qui parle français, n'est-ce pas? Et on n'a pas beaucoup de francophones là-bas, et donc quand on se voit, on essaie de parler assez souvent. Je te remercie beaucoup pour avoir participé à notre épisode.
Merci pour l'occasion de parler français avec toi. Je suis très content. Merci beaucoup.
Merci, Frou. Ciao. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky.
Au revoir les amis et à la prochaine.